Alors, je remercie d'abord Pierre Glaude et Jean-Baptiste Amadieu de m'avoir proposé d'intervenir lors de ce colloque du centenaire. Je tiens Léon Blois pour le lecteur le plus forcené et le plus passionné d'histoire byzantine de nos écrivains français. Cette proposition, assénée un peu abruptement et qui pourrait servir de conclusion à mon étude, doit être démontrée avec d'autant plus de méthode que mon statut de byzantiniste de profession pourrait légitimement susciter auprès de spécialistes de littérature quelques soupçons de biais dans l'analyse. En effet, quel byzantiniste ne se rangerait pas docilement sous la bannière de Blois en lisant cet aphorisme définitif dans l'Assiette au beurre en 1903 « Quand on touche à Constantinople, le monde frémit de la tête aux pieds ». J'examinerai ici le rapport de Blois à Byzance pour en distinguer en trois parties les formes, les sources et l'originalité. Bien évidemment, son épopée byzantine de 1906, réimprimée sous le titre « Constantinople et Byzance » en 1917, occupera une place importante dans mon propos, mais non pas la seule. Car si les études bloyennes, à quelques exceptions près, je songe ici aux travaux de Gaël Guyot, ont négligé ce thème de Byzance, c'est qu'elles l'ont commodément circonscrit à cet ouvrage étrange et difficile. Mais Byzance, chez Blois, ce n'est pas que l'épopée, ni même que de puissantes pages de la femme pauvre. Et il faut donc lire l'œuvre complète, la correspondance publiée, et surtout, je dirais surtout deux fois, le journal inédit en cours de publication, pour nouer les fils d'un intérêt toujours présent chez Blois pour l'Empire de Constantin des années 1880 à sa mort, et pour, si possible, dire du neuf. C'est dans la troisième partie de mon exposé que j'élargirai le propos. Blois n'est pas le seul de sa génération à assister à la spectaculaire refondation de l'École des études byzantines françaises, école qui compte en ses rangs les noms fameux d'Alfred Rambaud et de Gustave Schlumberger, qu'il lit assidûment, de Charles Dille ou de Gabriel Millet, qu'il n'a semble-t-il pas connu. En 1899 seulement, le ministère de l'Instruction publique décidait la création à la Sorbonne de la toute première chaire d'histoire byzantine et la confiait à Charles Dille. Une production historique croissante avait très vite contaminé les lettres françaises, mais nous verrons d'une part que Blois n'avait pas attendu ses habits neufs de la byzantinologie pour s'intéresser à Byzance, et d'autre part que son enthousiasme pour quelques-uns de ses nouveaux livres le mena sur une voie très personnelle, où il n'abandonna pas sa singularité. Premier point, donc, les formes de Byzance, du mot à l'idée. Alors, le lexique de Léon Blois a été étudié à plusieurs reprises, soit de façon générale, soit thématiquement autour de sa latinité. On a relevé également, à juste titre, une fascination de Blois pour les mots grecs savants, vocabulaire qui emprunte au grec médiéval de Constantinople et non à celui classique d'Athènes. Alors, un détail pour commencer, Blois, latiniste autodidacte, n'était pas helléniste. Pourtant, il s'est amusé à recopier ici et là du grec, ce qui est peu connu, dans son journal en 1892, par exemple, à propos de l'exégèse du nom d'Adam, dont les initiales désignent les points cardinaux. Dans une lettre de 1904 à Alfred Valette, où il reprend le proverbe « Souviens-toi d'être défiant », ou encore quand il relève et fait imprimer en grec dans son épopée l'adjectif « panurgos », « sournois », qualificatif donné par l'historien byzantin Michel Psellos à un général séditieux. Et enfin, en 1907, il signe une lettre à Gustave Schlumberger du nom de Léon Blois, « Anargurotatos », un superlatif formé sur « anargir », sans argent, Blois étant donc le très pauvre. Ce superlatif n'est attesté dans aucun lexique grec classique ou byzantin, il fait défaut à la lémmatisation du thésaurus linguae grecae, je soupçonne donc, jusqu'à preuve du contraire, que ce apax est l'œuvre de Blois lui-même, qui du grec avait peut-être quelques notions. En français, le lexique byzantin de Léon Blois est caractéristique, mais somme toute assez limité. Je délaisserai ici les mégalomartyrs, les isapostoles, les eucologes. Je citerai plus tard les silencières. Je ne retiendrai qu'un seul exemple pour illustrer mon propos, celui de Porphyrogénète, dont il fit un usage gourmand. Il désigne à Byzance l'enfant né dans la pourpre, c'est-à-dire après l'avènement impérial de son père. Dans les propos d'un entrepreneur d'ébullition, Blois écrit par exemple que la poésie est une Porphyrogénète née dans la pourpre du sang et du cœur des poètes. Dans ces mêmes années 1880 et dans la Chevalière de la mort, Marie-Antoinette est une grande Porphyrogénète fleurdelysée. Verlaine, en 1896, est le plus haut poète contemporain, le Porphyrogénète et l'enfant roi de la poésie, égaré parmi les crapules. Et enfin, les œuvres de Villiers de l'Isle-Adam ont été écrites non sur le carreau d'une mansarde ignoble, mais en réalité dans un cubiculum de Porphyrogénète. Le mot lui est si particulier qu'Émile Goudot, le rédacteur du Chat Noir, se serait séparé de Blois en le qualifiant en 1883 de porphyrogénète dévoyé. Et Blois de commenter avec humour « L'énormité de cet outrage ne sera ressentie que d'un petit nombre d'hellénistes ». Passons maintenant au mot de « byzantinisme » que Littré a accueilli dans son dictionnaire comme un néologisme au sens de l'état d'un peuple ou d'une assemblée où les querelles sur des objets futiles occupent ou divisent les esprits. Blois en fait un usage abondant quand il verse dans le registre de la violence verbale. Dans les propos d'un entrepreneur de démolition, lui, Veuillot et son style sont pris comme preuve du byzantinisme définitif d'une société soi-disant chrétienne. Sainte-Beuve avait le byzantinisme de la note et le délire de la nuance imperceptible. Catulle-Mendès est tellement complet comme byzantin qu'il pourrait à lui seul représenter toute une décadence. Edmond de Goncourt et Renan, cette fois dans Belluaire et Porcher, sont deux byzantins décrépits. Alors, Blois n'est pas ici du tout original. Il endosse simplement la critique du XVIIIe siècle envers Byzance qui renversa la faveur dont avait bénéficié cet empire sous la France absolutiste de Louis XIV. Je rappelle ici que Colbert avait fait publier la monumentale édition grecque des historiens de Byzance qu'on appelle la Byzantine du Louvre et que de grands savants comme Ducange, Combéfis, Montfaucon ou Mabillon avaient alors posé les fondements érudits d'une discipline historique naissante. Tout a changé au XVIIIe siècle. Rappelons-nous le chapitre 22 de Montesquieu dans ses considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, sur la faiblesse de l'Empire d'Orient. Rappelons-nous Voltaire et son essai sur les morts et les mœurs et l'esprit des nations, selon lequel on ne s'occupait à Byzance que de deux objets, les courses du cirque et les trois hypostases. Alors, ce ne sont pas là, évidemment, les sources de Blois, mais même les écrivains de la Restauration ont appuyé cette longue erreur judiciaire contre Byzance. Joseph de Maistre s'emportait contre les insupportables princes byzantins qui tournèrent surtout leur démence du côté de la théologie et dont le despotisme s'empara pour la bouleverser, du pape 1819, double critique de l'orthodoxie et du césaropapisme. Et il jugea, toujours de Maistre, que la langue française a voulu faire justice de cet empire en le nommant bas. Chateaubriand fut incapable d'aimer Constantinople, la patrie des Phocas et des Bajazets, et il confond dans un même mépris, dans son itinéraire à Jérusalem, des esclaves aussi vils que furent les Grecs du Bas-Empire et des tyrans aussi cruels que sont les Turcs de son temps. Blois est bien dans cette veine. Pour Blois, toutefois, le byzantinisme est le plus souvent un décadentisme littéraire. La littérature, comme autrefois l'Empire de Byzance, écrit-il, est tellement avilie que tout le monde peut y prétendre. Alors la chose serait anecdotique si Blois n'avait précocement soulevé les éléments d'une analyse littéraire que relèveront d'autres contemporains de façon plus poussée. Par exemple, dans sa charge contre le roman « L'Udine » de Francis Poiquevin en 1883, Blois diagnostique dans cette littérature un néant de toute spiritualité, de toute synthèse morale, de tout aperçu philosophique. C'est la même mosaïque byzantine, idiotement compliquée et froide à faire tomber les ongles. Paul Radio, dans un article fameux de la Revue Blanche, « Notre byzantinisme », postérieur, de 1894, va développer ce propos. Il définit le byzantinisme comme une multiplication des savoirs et des expériences que l'esprit devient incapable de hiérarchiser. Le byzantin fin de siècle s'en remet au sens, ce qui le dispense d'appréhender le tout pour ne traiter que de détails. Le byzantinisme, c'est une déconstruction du monde dont la rectitude est brouillée, dont les conséquences sont l'amalgame, la collection, le fragment, la tessère de mosaïque. Alors, la France byzantine est le titre d'un recueil d'articles de Julien Bindal. Alors, ne rapprochons pas les contenus, mais ce titre de France byzantine aurait très bien convenu au recueil de Blois que sont les propos d'un entrepreneur de démolition ou Belluaire et Porcher. Dernier aspect, toujours rapidement abordé, de la forme byzantine de Blois, l'onomastique. Et là, le byzantiniste est comblé et le lecteur sans doute interpellé de lire tant de noms aux racines grecques dans ses œuvres. C'est d'abord le père Athanase du Désespéré qui rappelle Athanase d'Alexandrie, l'hagiographe de saint Antoine, le modèle de ces anachorètes solitaires cités plus loin dans le même roman. Ce sont aussi les noms de personnages des histoires désobligeantes. Relevons Aristobule, mais lui vient de saint Paul, Théodore, Théodule, Théophile, Théophraste, dans la nouvelle Une idée médiocre, qui viennent d'on ne sait où, mais qui sont abondamment attestés à Byzance. Citons Damasène Chabrol dans Le Parloir des Tarentules, qui rappelle saint Jean Damasène, auteur de l'Échelle Sainte. Prenons encore la nouvelle Une martyre, qui s'achève bien évidemment à Paris, rue de Constantinople. Enfin, dans Deux fantômes, Blois va jusqu'à citer le pseudo Denis l'Aréopagite, parlant des anges. Il renvoie implicitement à son ouvrage sur les hiérarchies célestes du VIe siècle, mais où Blois trouvait-il donc le sel byzantin dont il accompagnait sa prose? Alors, Blois doit sa culture historique byzantine à deux auteurs, deux historiens différents, Charles Le Beau et Gustave Schlumberger. Le premier, Charles Le Beau, 1701-1778, fut professeur d'éloquence ici même, au Collège de France, au Collège Royal à l'époque, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et secrétaire perpétuel, presque 20 ans, de 1755 à 1772. L'excellent Le Beau, comme écrit Blois, n'est guère connu aujourd'hui que pour son Histoire du Bas-Empire, qui donnait une traduction commentée des historiens publiés, justement, dans cette Byzantine du Louvre dont j'ai parlé. Son ouvrage commença à paraître en 1756, fut continué à partir du tome 21 par Hubert Pascal Améillon, de l'Institut lui aussi, jusqu'en 1811, et il fut suivi de quelques volumes d'index. Alors Blois disposait chez lui d'un exemplaire de cette édition originale que vous voyez là, comme en attestent ses notes et la pagination à laquelle il renvoie. Et sur près de 20 ans, nous le voyons ruminer un ouvrage qui fut sa première source pour son attrait pour Byzance. Voir l'exemplier où j'ai relevé ses références régulières à Le Beau. Voici une belle illustration dans les années 1880, prise dans le cahier vert de Blois, où l'on trouve des notes sur les volumes 5, 6, 7 et 20 de Le Beau. Je relève que les fameux silencières de Blois, ceux qui imposent le complot du silence, pour revenir à son vocabulaire, sont découverts dans le tome 5 de Le Beau, et je relève aussi que ces notes font face à quelques jets du désespéré. De fait, cette lecture du Bas-Empire est mise en scène dans le roman en 1886, Marche Noire, je cite, « seul dans sa chambre, ayant passé plusieurs heures à compulser des similitudes historiques dans l'abominable épopée du Bas-Empire, il s'agit ici de Le Beau, s'aperçut tout d'un coup qu'il peinait en vain. » Nous trouvons par ailleurs dans le même roman une citation entière de Le Beau, repérée bien sûr par Pierre Glaude dans son édition, où l'amitié entre l'empereur Andronique III et son grand domestique, c'est-à-dire son premier ministre, le futur Jean VI Cantacuzène, nous sommes au XIVe siècle en 1330, est prise comme le modèle de l'amitié existant entre le héros du roman Marche Noire et son seul ami, Le Verdier. La rencontre avec Le Beau ne faisait toutefois que préfigurer celle plus marquante pour Blois avec Gustave Schlumberger et surtout son œuvre, puisque les deux hommes ne se rencontrèrent jamais physiquement. Gustave Schlumberger, 1844-1929, n'appartenait pas au monde universitaire. Médecin de formation, il n'avait pas à travailler, étant apparenté au clan industriel des Schlumberger. Il se fit rapidement voyageur dans toute l'Europe et en Méditerranée, devint collectionneur d'objets rares, explorateur des marchés orientaux autant que des collections privées qui toutes s'ouvraient à lui. Il fut numismate et sigillographe, sans être archéologue lui-même, sinon comme riche amateur de découvertes. Il fut le passeur vers un public lettré, voire un grand public, d'un savoir plus positif sur un empire byzantin jusqu'ici décrié. Protestant, et la chose est importante pour Blois, élevé à Pau dans une grande rigueur morale par un père pasteur, il fut à Paris un mondain impénitent, fréquenta les salons les plus réputés, rechercha la société des écrivains, il se vantait de faire les élections à l'Académie. Schlumberger fut comme Blois, et ceci les rapproche aussi, un admirateur sincère de Napoléon. Il écrivait des ouvrages sur son armée et ses anciens soldats, qu'il envoie à Blois. Il fut par ailleurs patriote, grand ami de Barrès et strictement anti-Dreyfusard. Alors, son œuvre maîtresse est une tétralogie consacrée à l'histoire événementielle des Xe-XIe siècles. Publiée d'abord chez Firmin Didot en 1890, trois autres volumes suivirent sous le titre imposé par Hachette d'épopée byzantine au Xe siècle en 1896, 1900 et 1905. Il va de soi que ces volumes, très richement illustrés en chromolithographie d'abord, puis avec des reproductions phytographiques, étaient hors d'atteinte de Blois, qui n'avait pas les moyens de se les procurer. C'est donc d'Henri Jacotet, en 1896, que Blois obtient, Henri Jacotet était rédacteur autour du monde, c'est un Suisse protestant de Neuchâtel, bienfaiteur de Blois, il obtient de se faire envoyer le premier volume de l'épopée paru chez Hachette, et jusqu'en 1904, il va recevoir de Schlumberger la série complète de ses volumes. En 1901, Blois le remercie de ses envois en ces termes. « J'ai toujours dévoré avec une avidité singulière tous les livres supérieurs ou médiocres qui parlaient de Byzance ou du Bas-Empire. Mon goût passionné pour cette histoire est quasi célèbre. Je ne désespère donc pas, écrit-il à Schlumberger, d'écrire après vous et d'après vous dans le Mercure de France quelques pages qui vous satisfassent. » La correspondance Blois-Schlumberger est conservé aujourd'hui à l'Institut. Alors Blois se sent, vous en avez la liste également dans votre exemplier, alors Blois se sent alors investi d'un devoir, nous sommes en mai 1901, et il va consacrer 5 années, au prix d'efforts considérables, à tenir sa parole, et ce, comme il dit, pour assouvir ses passions. Le temps nous manque pour faire la liste des éloges décernés par Blois à l'académicien, lesquels se résument dans la formule de conclusion de son livre, dont Schlumberger, qui nous a laissé des mémoires, fut très heureux. Voici l'exemple de la correspondance conservée à l'Institut. Nous voyons Jacques Autet extrêmement gêné de demander l'aide à Schlumberger. Hein, il le présente comme un pauvre écrivain aigri par l'obscurité et par la misère, ce qui n'est pas très favorable. Malgré tout, je reprends le fil de mon exposé, Blois fut extrêmement positif sur l'œuvre de Schlumberger, et il a cette formule qui lui vient très tôt dans les carnets, « Tout le monde est de l'Institut, on appréciera, seul Gustave Schlumberger est auteur de l'épopée byzantine. » Alors Blois est donc pris, il lit Schlumberger, il le relit, il rêve de Schlumberger, et l'inventaire des mentions de Schlumberger dans le journal inédit que j'ai distribué était, je l'avoue, une démarche imprudente dont je n'imaginais pas l'épais résultat. Il m'a démontré suffisamment la place démesurée que prit Schlumberger dans le quotidien de notre écrivain durant tant d'années, et par contre-coup, ceci montre l'importance du journal inédit, car ses mentions ont pour la plupart disparu du journal publié. À l'apparition de son livre, Blois fera cet aveu. « Je voudrais savoir si mon travail, écrit-il à Schlumberger, vous a plu. Je me suis fort dépensé, ayant conçu un vrai désir de sacrifier aux membres de l'Institut que vous êtes le farouche pamphlétaire qu'on veut que je sois, en retour du plaisir extrême que m'avait donné votre épopée, immolation qu'on a peine à croire et qui ne s'était jamais vue. Je la crois en effet sans parallèle. » Alors je précise rapidement que nous avons pour l'étude et la possible réédition de cette œuvre un luxe de documentation de nature diverse. Nous avons les notes de Léon Blois, prise sur l'épopée, le premier manuscrit de l'épopée byzantine, achevé le 26 septembre 1906, dans l'un des fameux grands cahiers, le manuscrit de cette même épopée remis à l'éditeur et conservé à La Rochelle, puis les 3 supports imprimés dans la nouvelle revue, fondée en 1879 par la, célèbre Juliette Adam, et qui accueillit cette étude, puis la plaquette, décorée d'un bel ivoire byzantin que fournira Schlumberger lui-même, et enfin la réimpression, à peine modifiée, chez Georges Crès, 10 ans plus tard, en 1917. Alors, je ne détaillerai pas ici la lente genèse de l'ouvrage, vous en avez les éléments dans cet exemplier, je poserai seulement la question à quel genre littéraire appartient donc ce livre ? À son correspondant Joseph Florian, Blois avait écrit qu'il s'agissait d'un long travail de critique historique, mais Jacques Autet voyait plus juste. Non un article critique sur le livre, mais un article à propos du livre. Et en tout cas, pas du tout, comme Blois s'en défend auprès de Pierre Termier en 1906, une réclame pour M. Schlumberger. Blois, dans ce livre, entame seul, en citant pour moitié de son volume la prose de l'académicien, un dialogue d'honnête homme avec Schlumberger, d'égal à égal. Il le corrige à l'occasion, le rudoie, mais rarement, pour son protestantisme. Il prend la pose de l'historien, sauf forfanterie toutefois, et il réalise ainsi, appuyé sur l'épaule de Schlumberger, ce rêve souvent caressé d'être lui-même l'auteur d'une histoire de Byzance. Il n'évite pas les digressions, les renvois à l'époque contemporaine, les parallèles fréquents avec l'autre épopée, celle de Napoléon. Il développe à plusieurs reprises sa pensée sur le sens caché de l'histoire. Il ajoute beaucoup d'humour, ses impertinences, dit-il. Il résume en même temps qu'il ponctue le récit de ses exclamations. Il paraphrase, il pastiche, il plagie, il s'assimile et traduit en quelque sorte dans la langue de Léon Blois la matière de Gustave Schlumberger. Il hésite même un temps à faire figurer le nom de Gustave Schlumberger dans le titre de cet ouvrage, et le nom de Gustave Schlumberger ne réapparaîtra que sur la seule couverture de la plaquette publiée chez Blaiseau. En somme, Constantinople et Byzance est un ouvrage composé à 4 mains, mais dont Blois aurait seul décidé de la rédaction. J'en viens maintenant à l'originalité de Blois dans son idée de Byzance. J'ai déjà eu l'occasion de distinguer par le passé, dans la fièvre byzantine qui saisit alors les lettres françaises, j'ai à nouveau donné une liste de ses œuvres dans votre exemplier, j'ai distingué 2 catégories principales d'œuvres. Un byzantinisme d'incantation, sédentaire et parisien, et un byzantinisme de reconstitution historique. Le premier, dès 1884, est celui d'À rebours, où Huysmans se montre plus byzantin que Byzance même, selon le mot célèbre de Barbey d'Aurevilly. C'est aussi le sonnet de Langueur de Verlaine, pardon, « Je suis un byzantin des suprêmes des fêtes », qui est publié la même année. La mode prend très vite dans un champ littéraire très étendu, et c'est aussi le contexte de Blois. Le prince de Byzance, de Joséphin Péladan, date de 1896. Les hors natures de Rachilde, de la même année, dont le lexique byzantin a été étudié par Jean de Palacio. De Jean Lorrain, Monsieur de Phocas, en 1897, et en 1902 du même, Les coins de Byzance ou Le Vicéran. J'oublie ici volontairement d'autres romans médiocres placés sous les mêmes augures. Mais les reconstitutions historiques sont évidemment bien plus nombreuses. La Théodora de Victorien Sardou, avec Sarah Bernard, fut montée à plusieurs reprises en 1885 et en 1902. Succès public prodigieux d'ailleurs, 244 représentations, 1,6 million de francs rapportés, selon le Figaro, qu'on peut mettre en regard des subsides que reçoit Blois. Mais il y a aussi La Byzance de Jean Lombard, en 1890, un roman profondément original dont Charles Maurras, critique inattendu en l'espèce, avait reconnu toute l'importance. Son auteur, écrivait Maurras, c'était le premier de notre génération littéraire enivré de Byzance. Puis vinrent aussi Anatole France et sa Thaïs de l'Égypte byzantine, Sainte-Euphrosyne du même France, qui pastiche très curieusement une vita rédigée au Mont Athos, les romans d'Henri Mazel, au Moyen-Âge très curieux, symboliste, à savoir le Nazaréen et le Calife de Carthage, Hugues Leroux avec ses amants byzantins de 1897, dont le sujet, placé au Xe siècle, lui aurait été soufflé directement par Schlumberger. Le plus intriguant, ce sont bien sûr les livres de Paul Adam, le vrai maître du roman byzantin. Il en écrivit trois, de 1893 à 1907, qui les lit aujourd'hui, Les princesses byzantines, Basile et Sophia, et Irène et les Eunuques. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que Blois connaît tous ces auteurs. Il les cite tous dans son journal, à la seule exception de Jean Lombard. Il est en relation épistolaire avec Paul Adam, il lui dédie, je vous le rappelle, une de ses histoires désobligeantes. Il connaissait la mode du roman historique, il avait lu au moins Covadis en 1901, dont il se désole du succès. Mais cependant, Blois n'est pas de ceux qui rêvent d'orgies, de messes noires ou de mutilations. La mode des néo-décadents de la fin du XIXe siècle, je le cite, ne lui correspond pas. Et comme il écrit dans Belluaire et Porcher, « Les décadents du mourant empire de Théodose et de Constantin, admirés aujourd'hui, avec frénésie, par quelques poètes contemporains et gélatineux, renieraient avec désespoir des turiféraires aussi malvenus. » Ce n'est pas là sa Byzance à lui. Quelle est donc la Byzance de Blois ? Alors pour Blois, dans l'état embryonnaire ou barbare où se trouvait l'Europe médiévale, Byzance est le seul phare qui éblouit, je cite, les chrétiens jusqu'en Bretagne, jusqu'au fond des golfes scandinaves. Il n'y avait que l'Empire grec, je cite à nouveau, qui eut des entrailles de nations et une tête, écrit-il dans Constantinople et Byzance. Je cite à nouveau, le droit divin de régner, de massacrer, et de faire la noce n'existait que là. Constantinople, la ville, souvent féminisée, est soit dévoyée, soit sainte, dans un couple que nous connaissons par ailleurs chez Blois, mais elle reste la porte de Jérusalem, où les bons pécheurs avaient tous l'espoir de mourir d'amour. Constantinople, c'est le reliquaire du monde, l'œcuménique chasse d'or, écrit-il dans La femme pauvre, évoquant les reliques que les Latins, ayant détourné le but de la quatrième croisade, pour s'accroupir comme des barbares dans la ville, dit-il, rapportèrent, les reliques que rapportèrent ces barbares, ces occidentaux, en Occident. Alors je relève ici le mot d'œcuménique chasse d'or, à propos des reliques orientales. Ce mot d'œcuménique ne me semble pas innocent, mais bien trahir une communauté de sainteté médiévale partagée par l'Orient et l'Occident, et pleinement acceptée par Blois. Je note en passant, par exemple en avril 1917, qu'il fait lire au peintre Henri de Groux Les vies des pères du désert, d'Arnaud d'Andilly. Je cite « Saint Paul l'Ermite, Saint Paphnus et surtout Sainte Marie l'Égyptienne ». Il écrit dans Constantinople et Byzance que Saint Benoît et Saint Bruno n'égalèrent pas les groupes angéliques des moines de la Thébaïde ou de la Syrie. Et je crois que Blois aurait pu écrire, comme Joseph de Maistre, dans son quatrième entretien, « Je suis un grec » au sens de, je cite Maistre, « Je suis de la religion de Saint Ignace d'Antioche, de Saint Justin, de Saint Athanase, de Saint Grégoire de Nazianze, de Saint Épiphane et de tous les saints en un mot qui sont sur vos autels ». Maistre s'adresse là au sénateur russe. Blois s'intéresse par ailleurs à l'image religieuse, à l'icône. Déjà dans le désespéré, la chambre de Marche Noire rappelait les intérieurs des pieuses isbas, je cite, éclairée par de perpétuelles lampes allumées dans les figures propices des iconostases. De l'iconoclasme, qui agita l'Empire byzantin de 730 à 843, il aurait voulu, écrit-il à deux reprises dans son journal, il aurait voulu écrire la terrible histoire. S'interrogeant sur l'interdiction du Deutéronome, chapitre 4, de représenter la figure d'un homme et d'une femme, citation clé de la querelle des images à Byzance, il prend néanmoins parti pour les iconodoules. L'Église, dit-il, qui connaît parfaitement l'homme, a permis et voulu les images. Et il s'oppose donc à l'empereur iconoclaste, aux empereurs iconoclastes, tels Constantin V dit copronyme, empereur, je cite, « si justement admiré des protestants », dans l'exégèse des lieux communs. Il admet donc le culte des images, tel qu'il se déroule en Orient, mais sous la réserve absolue d'une vénération surnaturelle strictement référée aux originaux invisibles, citant là dans La femme pauvre, le Concile de Trente. Trop marqué par le catholicisme de son époque, peut-être, et peu ouvert à la politique unioniste de Léon XIII envers les églises d'Orient, lequel envoie les assomptionnistes en Terre Sainte et surtout dans les Balkans, ramener les frères séparés dans le giron romain, Blois n'a pas développé, cependant, de sympathie pour les Grecs de son temps. Blois, quand Villiers avait lancé l'idée de prétendre au trône de Grèce, Blois avait jugé qu'il y a mieux aujourd'hui que ce minuscule royaume qui pend comme une mamelle aride au ventre bouleversé de la vieille vache ottomane. Les Grecs sont des schismatiques qui l'intéressent aussi peu que les Turcs, et sa condamnation de l'orthodoxie s'étend à la Russie, à la basse canaille des schismatiques russes. Mais là encore avec des évolutions. En mars 1906, il se prend de passion pour l'histoire de la Russie d'Alfred Rambaud, volume qui sera sans doute, dit-il, suggestif pour mon travail sur Byzance. Or, ce Rambaud, devenu ministre de l'Instruction publique, avait été le premier, en 1870, à donner le branle à la nouvelle histoire byzantine française dans son empire grec au Xe siècle, Constantinin Porphyrogénète, que Blois connaît et cite à plusieurs reprises dans son épopée. En somme, la Byzance la plus chère à Blois précède le schisme. C'est celle qui a existé avant le patriarche diabolique, je cite, Michel Cérulaire, en 1054. Alors, à mon sens, cette Octave Mirbeau, qui a trouvé la meilleure veine orientale pour comprendre Léon Blois, comme moine girovague, c'est-à-dire celui qui s'oppose à la règle des cénobites, des gens de lettres bien élevés, habitués à vivre ensemble. Mirbeau fait de Blois un terrible solitaire, et l'on pense évidemment ici à tous ces modèles hagiographiques orientaux, où les moines sont ermites, stylites, dendrites, spéléotes, pratiquent la macération, et chargés de chaînes les réclusions extravagantes. Blois est en effet une figure de père du désert, celui qui, de façon parfois déconcertante, procure aux visiteurs interdits ou aux correspondants quelques apophtegmes ou dédicaces. Seulement, je cite Mirbeau ici en 1897, « comme il n'y a plus de désert, Léon Blois a trouvé un silo. Il s'est creusé lui-même la fosse de ses mains, il a creusé son corps d'ulcère liturgique, il a bordé sa fosse de cul de bouteille. » Alors, c'est intéressant parce que Blois relèvera plus tard, comme pratique ascétique édifiante, le fait que l'empereur Nicéphore avait un lit garni de tessons. Alors, il s'est creusé lui-même la fosse de ses mains, donc il a bordé sa fosse de cul de bouteille, de clous, d'excréments déclamatoires, pour la rendre inaccessible, pour être plus nu, plus seul avec Dieu. De cette fosse, ajoute Mirbeau, il jette aux passants des bouses de lumière et d'éternité, des haines d'or, le verbe le plus sauvage et le plus magnifique, lourd et pénétrant comme la lave et l'aérolite. Cette extravagance de l'homme de lettres, rapprochée des prouesses de l'homme de Dieu, conduit à une dernière figure qui a été évoquée ce matin. C'est celle du salos en Grèce, à savoir du fol en Christ ou du fou de Dieu. C'est le personnage qui, à Byzance, contrefait la folie afin d'édifier ses contemporains. Et je voudrais signaler que Nicolas Berdiaïf, grand théologien orthodoxe du XXe siècle qui fit découvrir aux Russes Blois, Hélo ou Huysmans, avait reconnu en Blois une telle figure de salos qui recherche le mépris et l'humiliation, se voue à la risée pour porter le témoignage de la folie de la croix. Le fameux incipit du Pal complète bien sûr, confirme bien sûr la démarche « J'ai longtemps cherché le moyen de me rendre insupportable à mes contemporains ». Et Octave Mirbeau de conclure par une phrase que je trouve remarquable, « Le pire sadisme pour les martyrs, c'est d'avoir l'air de bourreau ». Ainsi, de la cathédrale romano-byzantine de son enfance à Périgueux, à la basilique néo-byzantine de sa vieillesse du Sacré-Cœur, deux édifices qui ont leur place dans son journal, Blois n'a cessé de regarder vers l'Orient grec et byzantin. Rappelons que cette belle phrase, j'ai fait mes plus beaux voyages sur des routes mal éclairées, accompagne dans le journal, en 1905, la difficile rédaction de son épopée byzantine. Alors de Constantin au IVe siècle, à l'amitié d'Andronique III pour Jean Cantacuzène au XIVe, des silencières au supplice d'Andronique Ier au XIIe siècle, dont il a soufflé le sujet d'un tableau, je crois qu'il en sera sans doute question cette semaine, demain peut-être, à Henri de Groux, des iconoclastes à l'empereur Basile II, le Bulgaroctone, rien de Byzance n'est vraiment resté étranger à Léon Blois. Qu'on permette à un byzantiniste en ce centenaire de le pasticher pour conclure, quand on touche à Constantinople, Léon Blois frémit de la tête aux pieds. Je vous remercie.